Amen et merci. Merci beaucoup pour ces chants qui nous préparent pour écouter la parole de Dieu. Donc vous avez risqué quand même gros pour, en venant ici. La pluie, le vent, le froid, l'hiver, pas encore le printemps. Mes amis, avant d'ouvrir la Bible, on va prier pour ouvrir son cœur. On peut ouvrir la Bible et ne jamais ouvrir son cœur. Ça veut dire ouvrir le cœur, prêter attention, recevoir un message personnel. Ça va? Vous m'entendez bien? Nous allons ensemble nous lever pour prier le Seigneur. Nous avons besoin d'entendre ce message de l'Évangile qui nous est adressé personnellement. Car dans nos vies personnelles, nous avons besoin de paix, de direction, d'un chemin clair, d'une parole d'apaisement, de pardon. Aide-nous par ce message d'aujourd'hui sur ton regard. Aide-nous en nous donnant force et courage pour continuer le chemin, toujours plus en avant, vers toi. Merci Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir, chers amis, et permettez-moi de vous parler des regards de Jésus. Vous avez remarqué, quand on parle avec les gens, on ne regarde pas leurs chaussures. Ça ferait un effet étrange. On les regarde droit dans les yeux. Pas trop dans les yeux, mais enfin, on regarde leurs yeux. Et voyez-vous, en lisant, en relisant à nouveau l'Évangile, je me suis dit, mais en fait, on ne sait rien sur Jésus, sur son visage, sur ses yeux. On ne sait pas quel aspect il avait. Dans le livre des psaumes, il est dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme ». Mais dans le prophète Ésaïe, il est dit « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards ». Alors, comment était Jésus? Moi, je pense qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Mais je pense aussi que on ne peut pas avoir une conscience aussi pure que celle de Jésus. Une humanité aussi parfaite, une bonté aussi grande, sans que ça se voie sur son visage et dans ses yeux. Vous avez remarqué déjà des gens en colère, comme leur visage se transforme, leurs yeux, leur bouche, leurs oreilles, leur cou. On se transforme par la colère. Oui, c'est vrai, Jésus a pris une forme d'esclave, c'est écrit. Mais je crois que il y avait certainement sur son visage un reflet de la gloire de son Père qui l'envoyait. Enfin, je ne vais pas pouvoir vous parler des yeux. Sont-ils marrons? Sont-ils noirs ou bleus? Ce qui m'intéresse surtout, c'est ce que Jésus regardait. Quand je lis les paraboles de Jésus, je vois qu'il observait beaucoup. Et par exemple, quand il parle des champs d'orge et de blé, il dit « Regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. » Donc il devait les observer. Une autre fois, il dit « Regardez comment poussent les lys des champs. » Donc il devait les regarder. Il était attentif à tout ce qui l'environnait. Il a dû observer les maisons mal construites en zone inondable. Il a dû observer les tempêtes, le vent, la pluie, et comment les maisons peuvent s'écrouler parce qu'on les a construites mal. Et c'est pareil dans nos vies aussi, on construit parfois les choses mal. Il a observé, toujours d'après l'Évangile, il a observé la lampe qui s'éteint faute d'huile, comme dans nos vies parfois. Des choses s'éteignent parce qu'on n'a pas pris soin de les renouveler. Il a observé la poule qui rassemble ses petits, ses poussins avant, avant l'orage. Il a observé les poissons dans le filet fatal qui se débattent, comme s'il y avait encore de l'espoir. Mais quand on est dans le filet du pêcheur, c'est fini. Le poisson, le pauvre bête, il va mourir. Et nous, parfois, on se débat pour gagner, aller plus loin, mais il faut ouvrir ses yeux sur Dieu. Puis il a dû observer Marie, sa mère, qui devait parfois repriser, et puis parfois elle devait changer de vêtements. Jésus lui a appris peut-être d'elle, on ne met pas un morceau de tissu tout neuf, un vieil habit. Les dames disent parfois, on change de robe. On ne remet pas des morceaux de robe, on change de robe. Voilà. Puis il a dû observer des gens qui ont des idées de grandeur, des idées fabuleuses, des greniers, des comptes en banque, toujours plus, mais qui ont un tout petit cœur pour Dieu, qui ne pensent jamais à Dieu, puis qui un jour partiront. Ah, les regards de Jésus, extraordinaire, hein, l'observation qu'il avait. Eh bien, je vais lire avec vous dans l'Évangile selon Jean. On aime bien l'Évangile de Jean, mais ce n'est pas le seul Évangile, bien sûr. L'Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 40. Nous lisons ensemble. C'est au début du ministère de Jésus. Il commence à appeler ses apôtres. Ah, mais les apôtres, il les a regardés avant. Certains, il les a regardés pêcher, réparer leurs filets. Ils regardent s'ils ont de la patience, s'ils ont l'esprit de coopération, je ne sais pas. Ils observent, ils m'observent, ils vous observent. Jean chapitre 1er, verset 40. André, frère de Simon-Pierre, un apôtre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Jean-Baptiste, là. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé. Voilà, on est maintenant dans le regard de Jésus. Hein. Jésus l'ayant regardé lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Caillou, solide. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André de Pierre, à côté du lac de Tibériade. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, regardez, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu ? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu, les regards de Jésus. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et lui dit, en vérité, vous verrez, toujours le verbe voir, désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Un petit voyage au lac de Tibériade. Oh, ce lac, comme j'aimerais le voir. Ce lac enchanteur. Et puis, il y a des petites bourgades autour du lac, des petites maisons de pêcheurs, des petits villages. c'est un lieu de pêcherie, c'est un lieu où les hommes sont habitués à travailler dur, à jeter le filet, ils ne dorment pas, ils ne sont pas les deux pieds dans le même sabot. Et des hommes burinés par les tempêtes, par le vent, la fatigue. Et puis Jésus est allé dans cette région. Et puis il y avait un homme de cette région, personne ne l'avait vu, ni ses parents, ni ses frères, ni ses sœurs, qui était en train de se cacher sous un figuier, aux larges feuilles. Et il était caché comme Adam. Vous savez que depuis que l'homme est sur la terre, il se cache. On se cache de la vérité, on se cache par rapport à Dieu, on se cache quand on fait le mal. L'homme est cachetier. Adam se cachait et depuis on se cache, voilà. Et Nathanaël se cache. Et voilà que Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, personne ne t'a vu, mais moi je t'ai vu. Et j'ai vu dans ton cœur, et je te connais, et tu es un homme droit, et tu t'appelles Nathanaël. Nathanaël a été suffoqué de voir ce regard qui n'a pas seulement vu, qui ne l'a pas seulement vu se cacher sous un arbre, mais qui a dû lire dans ses pensées, qui a dû lire dans son cœur. D'ailleurs, l'apôtre Jean, quand il voit Jésus ressuscité, il dit que son regard, il est comme une flamme de feu, c'est-à-dire éclairant et réchauffant, mais éclairant le fond des pensées où il y a tant de serpents, de choses mauvaises, des choses bonnes. Le regard de Jésus, qui va dans un lieu où il y a des malades par dizaines, Bethesda, c'est une maison, je dirais aujourd'hui un hôpital, une maison de maladie. Et là, Jésus cherche parmi tous ces malades un homme qui est là depuis 38 ans et qui est paralysé, qui ne peut pas marcher. Et Jésus l'a vu couché et lui a dit, sachant qu'il était malade depuis longtemps, « Veux-tu être guéri ?» Il a vu cet homme, il a vu ces années de détresse. Arrivant pas très loin de là, toujours, dans un petit village appelé Naïn, Jésus rencontre sur le chemin, il croise sur la route une femme qui va enterrer son fils unique, et qui est toute seule parce que son mari est décédé. On n'invite pas beaucoup de gens, des veuves, à notre table. On n'invite pas beaucoup des gens qui ont perdu des enfants parce que on ne sait pas quoi leur dire, parce qu'on ne sait pas très bien comment ils vivent leur chagrin, leur deuil. Mais Jésus va lui parler. L'Évangile dit, l'ayant vu, il fut pris de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Comme s'il y avait derrière ce mot un espoir, alors qu'il n'y a plus d'espoir. Toujours dans les mots de Jésus, une lueur d'espérance. Ne pleure pas. Jésus a vu cette femme. Il a vu votre chagrin. Il a vu votre deuil. Un jour, tout à fait autre chose, il rencontre sur son chemin, il rencontre un beau jeune homme avec son panache et puis sa santé et sa forme. Il le rencontre et puis ce jeune homme, il parle bien, il est droit, il est moral. Jésus le regarde et il aime ce jeune homme. Il le trouve rempli de vie, de bonne disposition. Mais le regard de Jésus sur ce jeune homme, c'est un regard qui l'appelle. C'est un regard qui le cherche parce que ce jeune homme, il est complètement enfoui dans l'amour de son argent. Il n'en vit plus, il n'en dort plus, il ne pense qu'à ça, il ne parle que de ça, il vit que pour ça. Alors le Christ l'appelle, suivant ce que tu as, arrête, débarrasse-toi et suis-moi. Le Seigneur a vu au fond de son cœur ce qui le retenait dans la vie, le regard de Jésus. L'autre, c'est un petit orphelin. Il est le huitième d'une grande famille, huitième, un petit garçon, du côté du Massif central. Et puis là, il vend souvent des œufs au marché. Il ne fait pas grand-chose de sa vie. Hein. Je ne sais pas ce qu'il va devenir, ce petit garçon. Mais enfin, toute la famille a quand même la crainte de Dieu. Ils aiment le Seigneur. Ils lisent l'Évangile. C'est dans les années 1880, par là. Hein. On finissait la chapelle à cette époque, pas nous. Et le Seigneur voit ce petit garçon, son regard se pose sur lui, et il me semble que le Seigneur a dû lui dire, au milieu de ta misère, François, je te vois et je t'appelle François. François Coillard est parti missionnaire en Afrique du Sud, au Zambèze exactement, parce que le regard de Jésus s'est posé sur ce petit garçon qui était voué à une vie de pauvreté il y a plus de 140 ans. Le regard de Jésus vous cherche. Un jour, le Seigneur a vu dans les demeures du gouverneur de Finlande, dans le beau palais, il a vu une belle jeune fille qui était très mondaine, très riche, très cultivée, mais que va-t-elle faire de sa vie? Parce qu'on peut avoir beaucoup de choses, beaucoup d'argent, beaucoup de tout, et puis manquer sa vie, rater. Et le Seigneur est allé visiter cette jeune femme qui croyait dans le Christ, et lui a dit Mathilda, c'était son prénom, Mathilda, c'est comme s'il lui avait dit ça, Mathilda, je t'appelle, suis-moi. Et Mathilda Vred est devenue, de sa plus de 100 ans, l'apôtre des prisonniers. Et à l'époque, quand on était en prison, c'était très difficile, très dur, c'était un véritable bagne. Mathilda Vred, le regard de Jésus s'est posé sur elle, comme sur François, comme sur vous, comme sur moi aujourd'hui. Comme sur ce jeune homme qui revient de sa fugue, de sa cavale, de sa folie. Et quand le Père le vit, quand le Père l'a vu arriver au bout du chemin, la barrière était toujours ouverte pour qu'il revienne. Ça fait des mois qu'il était parti. Le Père l'a vu de loin, il l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé et lui a dit « mon fils, tu étais mort et tu reviens à la vie. Tu étais perdu et tu es retrouvé. » C'est le fils prodigue, vous le connaissez. Le regard. Parlons peut-être maintenant du regard qui pénètre la vie. J'aime beaucoup le psaume 139, vous le lirez. Le psaume 139, au commencement du psaume, David dit « Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, tu sais quand je me couche, tu connais mes pensées, tu connais ma parole avant que je te parle, tu connais tout, tu vois tout. » Et le Seigneur, c'est vrai, voit tout. Il pénètre dans la vie, connaît les paroles que nous avons prononcées hier, peut-être contre quelqu'un, peut-être que nous avons aidé par nos paroles. Et puis un jour, le Seigneur, il est allé au temple de Jérusalem et il s'est assis, vous ne savez pas où, ce n'était pas son habitude. Je pense qu'il n'a jamais fait ça, lui qui ne s'occupait pas des héritages et de l'argent, etc. Il s'est assis en face du tronc. Alors ceux qui passaient, là, ils étaient sous le regard de Jésus, comme sous un projecteur. Et Jésus regardait, écoutez-moi bien, comment les gens mettaient. Alors certainement que, oui, moi je vais mettre 200 euros. Ça n'impressionne pas trop Jésus, parce que Jésus sait qu'il a 100 fois plus chez lui. Hein. Et puis, un petit peu plus tard, il est passé une petite dame, une petite veuve, qui n'avait pas beaucoup d'argent, elle a mis deux petites pièces de 1 centime. Et Jésus l'a regardée. Et Jésus savait, en la regardant, que c'était tout ce qu'elle possédait. Elle a donné tout. Elle a donné quelques centimes. Le Seigneur, par son regard, regarde comment nous faisons les choses. Il ne regarde pas seulement ce que nous faisons, mais comment nous le faisons. La seule chose qui restera de nous, c'est comment nous avons vécu. Ce n'est pas tellement tout ce que nous aurons fait. Certains ont réussi à être grands chefs d'entreprise, d'autres ont réussi à être médecins, avocats ou professeurs, je ne sais pas. Mais ce qui va compter devant Dieu, c'est comment nous avons été dans notre profession, dans notre famille, comment nous avons bâti notre vie. C'est ça le plus important. Alors Jésus, il voit l'invisible, il voit cette femme et il sait que cette femme, elle donne tout. Il voit ce que je ne pourrais jamais voir. Il est dit dans un texte de l'Évangile, le Seigneur, voyant leur foi, la foi c'est invisible, incolore, inodeur, la foi, il a vu leur foi, parce qu'il portait un malade sur un brancard et il voulait le faire entrer dans la maison où était Jésus, il ne pouvait pas entrer, ils sont passés par le toit, c'était pas si haut à l'époque, hein. C'était 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres. Ils ont passé le paralysé par le toit, ils l'ont descendu dans la maison où était Jésus. Et la Bible dit, Jésus voyant leur foi. Puis à côté, ça murmurait, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus voyant leur murmure. Jésus a vu la prière de cette femme qui était malade depuis 12 ans. Et pendant 12 ans, on a de quoi se décourager. On a de quoi baisser les bras. Pendant 12 ans, on est capable de ruminer des choses mortelles, mais le Seigneur voit. Il a vu la foi de cette femme qui avait une perte de sang et qui a touché son vêtement parce qu'elle disait une prière étrange. « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Elle l'a touché. Elle fut guérie. Le Seigneur voit. Un jour, il était sur la montagne, c'était la nuit. Et quand on est sur la montagne la nuit, on n'a pas de lumière, il n'y a pas de phare, il n'y a rien. Et les apôtres, eux, ils étaient tout en bas sur le lac, dans une barque, et ils ramaient, et il y avait de la tempête comme aujourd'hui, et la barque n'avançait pas. Et l'Évangile dit, Jésus voyant, les yeux, Jésus voyant qu'ils avaient de la peine à ramer. Je me suis toujours dit, mais comment a-t-il vu ? Puisqu'il était tout en haut et il était dans la nuit et les apôtres étaient sur le lac en pleine obscurité. Jésus, voyant qu'ils avaient de la peine à ramer, je peux vous dire qu'il vous voit, mes amis, vous qui avez de la peine à ramer, parce que vous avez la maladie dans votre maison, parce que vous avez des soucis d'argent, parce que les choses que vous croyez certaines commencent à s'ébranler, parce que vous n'êtes pas sûr de rien, parce que vos enfants, parce que votre mari, parce que vous avez de la peine à ramer, mais le Seigneur voit. Et le Seigneur est compatissant. Le Seigneur voit aussi l'avenir. Justement, l'avenir m'inquiète. Je suis un peu pessimiste sur l'avenir, mais oui. Alors on me dit, comment, vous n'êtes pas optimiste, mais quand on est chrétien, tout est beau, tout est rose. Tout est rose. Je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent de faim, beaucoup d'enfants qui travaillent dans des conditions déplorables, beaucoup d'enfants qui sont dans le trafic du sexe, employés par des hommes épouvantables. Je me dis, le Seigneur, devant ça, ne veut pas qu'on dise que la vie est rose. Et j'aimerais savoir demain comment sera, mais il faut que je vive au jour le jour. Mais le Seigneur, lui, il voit de loin. Juste avant les rameaux, juste avant d'entrer à Jérusalem pour mourir, il a dit à ses apôtres, « Vous allez aller là-bas, vous trouverez un ânon. On vous dira pourquoi vous le détachez. Vous leur direz, le Seigneur en a besoin. » Ils sont allés, ils ont vu l'ânon, ils ont vu le monsieur en question qui leur a dit, « Mais pourquoi vous faites ça ?» Ils ont répondu, « Tout était préparé. » Le Seigneur voit l'avenir. Il disait souvent, « Je vous dis ce que j'ai vu chez mon Père. Je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et quand je serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi pour que vous soyez avec moi. » Tout ça, le Seigneur le voit d'avance, il sait comment je vais mourir, il sait comment je vais continuer après la mort, il sait comment je serai, où je serai. Il connaît d'avance les choses, il voit. Aujourd'hui, la vague, on appelle ça, en termes de marine, il y a des vagues, vous savez, sur l'océan qui peuvent faire 30 mètres de haut. En général, ceux qui ont vu ces vagues ne sont jamais revenus. On appelle ça des vagues scélérates, ça veut dire méchantes. 30 mètres de haut. Le bateau, là, il est désemparé, il suffoque. Et je crois qu'aujourd'hui, en revenant les pieds sur terre, je crois qu'aujourd'hui, il y a des vagues scélérates qui déferlent sur les familles, qui déferlent sur nos pays et on ne sait pas quoi faire. Je pense à toute la puissance de l'argent. Je pense aussi à tous les tremblements de terre, je pense aux famines, je pense à tout ce qui provoque aujourd'hui l'inquiétude du monde entier devant un avenir de guerre ou de paix. Ce sont des vagues scélérates. Le Seigneur l'a vu et il nous a dit, quand vous verrez ces choses arriver, redressez vos têtes, levez les yeux, votre délivrance approche. Il voit, quand il était sur la terre, il disait, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Élevé, qu'est-ce que ça veut dire? Élevé sur la croix. Jésus voyait d'avance le triomphe de son amour et de sa mort sur les habitants de la terre. Je suis quelqu'un qui s'est converti en écoutant la parole de Jésus. Vous êtes certains ici convertis par la parole de Jésus. Et d'autres vont s'ajouter et découvrir la lumière. Le Seigneur voit l'avenir. Ne crains pas, crois seulement. Ne promène pas des regards inquiets. Je te montrerai la voie que tu dois suivre, le chemin que tu dois suivre. Alors je vais conclure. En vous disant, eh bien, ce regard pénétrant, ce regard parfois sûrement gênant. Un jour, on a amené à Jésus une femme. On a défourné du lit, et puis on l'a amenée comme un paquet de linge sale, puis on l'a jetée au pied de Jésus en disant, elle a commis l'adultère, qu'est-ce que tu dis? Jésus, c'est étonnant parce qu'il a écrit sur la terre, sur la poussière, dans le temple de Jérusalem, et il ne regardait pas la femme. Il était tout près, collé au sol. Il écrivait et il ne regardait pas la femme. Parce que le regard de Jésus sur cette femme, surprise en adultère, ça aurait été pour elle tellement gênant, mais il ne la regardait pas. Il lui tend une main secourable, en fait, et lui dira, va et ne pêche plus. Alors ce regard, mes amis, ce regard fabuleux qui voit l'univers entier, qui voit, moi je vois juste le bout de mon nez. Lui, il voit tout d'avance, le passé, le présent, l'avenir. Eh bien ce regard, il a cherché quelqu'un un jour. Il s'est posé sur un homme, il s'appelle Pierre. Vous connaissez Pierre, l'apôtre? Je l'aime bien, il est dynamique et il aime le Seigneur, il fait quelques erreurs, mais quel homme qui rebondit et puis qui est toujours partant, un battant. Il s'est posé sur Pierre, c'était un soir, une nuit même de pleine lune, la pleine lune du printemps. Vous me direz, vous en savez des choses. C'est écrit, je ne dis rien de ce qui n'est pas écrit, je ne dis que l'Écriture. Et Pierre était dans la cour d'un nommé Caïphe, qui était le grand prêtre de la religion juive de cette époque. Il était dans la cour du grand prêtre, et tout au bout de la cour, là-bas, il y avait, il lui tournait le dos, il y avait Jésus, son maître, Jésus, à qui il avait dit, « Seigneur, à quel autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et au moment où il rentre dans la cour du grand prêtre, celle qui tenait la porte, qui ouvrait la porte, elle lui dit, ben, je te connais, tu fais partie de Jésus. Mais il ment. Il dit, si je dis la vérité, je vais être pris comme Jésus, je vais me retrouver en croix. Il veut échapper à un danger qui ne sert à rien. Et il dit, je ne sais pas ce que tu veux dire, je ne comprends pas, je ne connais pas cet homme, point final. Pouf. Un petit peu plus loin, il rencontre une autre dame, une servante de ce palais, du prêtre Caïphe, qui lui dit la même chose. Et lui, il recommence un nouveau mensonge. Regardez comment il roule sur la pierre, sur la pente glissante. Il recommence un nouveau mensonge. Je ne connais pas cet homme, je vous l'ai dit, je ne l'ai jamais vu. Cocorico. Le coq chante. C'est rien un coq qui chante, hein. C'est un peu gênant le matin à 4 heures. Mais c'est rien un coq qui chante. Mais Jésus lui avait dit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Jésus lui avait dit. Et parfois, il faut écouter les coqs, c'est-à-dire les petits signaux qui nous disent « attention à toi, tu n'es pas sur le bon chemin, tu ne fréquentes pas la bonne personne, tu vas te faire avoir, tu vas te faire manger, attention à toi, fais attention à ce que tu fais. » Le coq chante. Et Pierre continue. Et voici que quelqu'un lui dit, une troisième personne, un homme, et lui dit « mais je te connais, tu étais avec eux. » Pierre, pour la troisième fois, ment, jure, s'enfonce dans l'infidélité. Vous savez, quand on dit des mensonges, on ne sait plus comment les rattraper. Comment rattraper un mensonge? C'est dit. Et Pierre est là dans un désarroi complet. Et au même moment, Jésus se retourne. Ils étaient à quelques mètres. Peut-être 8 mètres, 10 mètres, je ne sais pas. Il se retourne et il regarde Pierre droit dans les yeux. Les regards, droit dans les yeux. Il regarde sa brebis perdue, Pierre. Il regarde son ami. Il regarde son enfant, son apôtre. Il regarde le fond de son âme. Il regarde l'avenir de Pierre. Pierre, tu viens de naître, tu es appelé à prêcher au monde entier. Il regarde, au monde entier, ce n'est pas qu'il ira dans toutes les places du monde, mais son livre est là, c'est la Bible. Il regarde Pierre, le futur pêcheur d'hommes. Les regards se croisent. Et je pense que Pierre, il a dû voir dans le regard de Jésus une tristesse. Parce que Jésus ne dit pas « Amen » devant nos péchés, nos bêtises. Il a vu une tristesse de Jésus, il a vu un appel de Jésus, il a vu un message d'amour de Jésus qui devait lui dire « Pierre, tu ne me connais pas? Je ne te condamne pas. » Le regard de Pierre était certainement chargé d'un message pour lui dire « Pierre, je t'ai entendu me renier, mais je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. » Je crois que le Seigneur nous regarde ce soir. Il faut sortir de nos cachettes. Il faut que tout ce qui est mal en nous vienne à sa lumière. Il faut que tout l'est pas encore. C'est pas encore le temps. Plus tard, on verra bien. Il faut que tout ça sorte. Il faut que ça sorte parce que dans ma 14e année, j'ai dit « Oui, Seigneur ». Puis dans ma 18e année, j'ai dit « Seigneur, tu fais de moi ce que tu veux. » Il m'a regardé, il m'a pris par la main et jamais je ne l'ai regretté. Eh bien, je voudrais simplement vous dire aujourd'hui, on a parlé sur les regards et je vais dire simplement un verset du psaume 138. « Regarde-moi, Seigneur, le psaume, regarde si je suis sur un mauvais chemin. » C'est peut-être la prière qu'on devrait faire finalement pour finir. Toi qui nous regardes sans cesse, regarde si je suis sur un mauvais chemin et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Voilà. Non ? Ça ne pourrait pas se finir comme ça ? Regarde-moi si je suis bien, si je ne fais pas de bêtises, si je suis vraiment sur le chemin de la vie éternelle. Si je suis dans la vérité, il y a une vérité qui tient le monde, qui tient la vie, qui nous tiendra au dernier souffle. Au dernier souffle, il n'a jamais été question de réincarnation, mais de Jésus avec nous. Et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Écoutez, on va fermer nos yeux, lui laisser lui nous regarder seulement. Parce qu'on ne peut pas le voir, hein. On peut simplement le recevoir et l'écouter, mais lui nous voit. Il voit où nous en sommes. Quelle parole, première parole adressée à l'être humain, Adam, où es-tu? Il le voyait, caché. Je pense que son regard s'abaisse sur nous. C'est un petit chant qu'on chantait autrefois. Son regard s'abaisse sur nous. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est caché, rien n'est couvert. C'est encore un petit chant. Je crois qu'il nous faut laisser le Seigneur nous regarder. Il faut mettre notre vie devant lui, clairement exposée. Seigneur, j'ai besoin que tu me sauves, je ne sais pas où je vais. Un de mes copains s'est tué en voiture, un autre est décédé de maladie. Voilà ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, mon enfance. On avait des jeunes qui partaient. Et là, on a envie de dire, Seigneur, je ne sais où je vais, mais regarde-moi et conduis-moi. Nous baissons nos têtes quelques instants. Tu regardes chacun de nous. Regarde si nous sommes sur le bon chemin. Et mets-nous sur le bon chemin. Le chemin qui passe par la croix, le chemin qui passe par la résurrection de l'espérance, le chemin qui passe par une vie renouvelée. Mets-nous sur le chemin de la vie. Parce que sans toi, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne sommes pas capables de comprendre ce qui est bon pour nous et de décider pour toi. C'est toi, tu as décidé, dit un psaume, tu as décidé de nous sauver. Regarde-nous, pardonne-nous, relève-nous, guéris-nous. Au nom de Jésus. Amen.